VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 21 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Abdourahmane Thiam.
Nous commençons par les titres.
Les États-Unis lancent en Côte d'Ivoire l'exercice militaire Flintlock.
Le président turc, Recep Erdogan, en visite en RDC, première étape d'une tournée qui le mènera aussi au Sénégal et en Guinée-Bissau.
Un Soudanais a été tué hier dans des défilés anti-putsch à l'arrivée de l'émissaire de l'ONU pour les droits humains, Adama Diagne.
Au Maroc, manifestation pour dénoncer la hausse des prix.
L'Éthiopie lance la production d'électricité du grand barrage sur le Nil.
Les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden acceptent de tenir un sommet sur l'Ukraine proposé par leur homologue français Emmanuel Macron si une invasion n'a pas eu lieu, confirme la Maison Blanche.
Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oumpatine.
Pour l'instant, le journal.
L'exercice militaire Flintlock a été lancé hier en Côte d'Ivoire par le contre-amiral Jamie Sands, commandant des opérations de l'armée américaine en Afrique. Le point avec Gaby Dorsil.
Le contre-amiral Jamie Sands a mis en exergue des objectifs communs, en particulier dans la lutte anti-djihadiste en Afrique de l'Ouest, en lançant officiellement l'exercice à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, près d'Abidjan. Flintlock, qui s'achèvera le 28 février, rassemble les armées des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun et du Niger, avec le soutien du Canada, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Norvège et de l'Autriche. L'armée ivoirienne est prête à faire face au terrorisme, a affirmé le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia. Cet exercice se tient juste après l'annonce par la France du retrait du Mali de la force Barkhane et de la force européenne Takuba, qui doivent se redéployer dans d'autres pays de la région, en particulier le Niger. Frappé à plusieurs reprises dans sa partie nord par les attaques djihadistes, comme d'autres pays du golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire accueille 900 soldats français basés à Abidjan.
Au Sénégal, des milliers de personnes ont manifesté hier à Dakar pour réclamer un renforcement de la répression de l'homosexualité au Sénégal après le récent rejet par le Parlement d'un texte durcissant les lois en la matière. Selon l'imam Aliou Ndao, célèbre au Sénégal pour ses prêches religieux, le président de l'Assemblée nationale doit faire revenir dans la procédure la proposition de loi pour que les députés puissent l'examiner à nouveau et l'adopter en séance plénière. Le bureau de l'Assemblée nationale avait rejeté la proposition en soulignant le fait que le code pénal sénégalais réprime déjà sévèrement l'homosexualité.
Les questions sécuritaires et économiques sont au cœur de la visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan, arrivé hier dimanche en République démocratique du Congo pour un séjour de 2 jours, première étape d'une tournée africaine prévue du 20 au 23 février. Il devrait ensuite se rendre au Sénégal et en Guinée-Bissau. M. Erdogan, qui était accompagné d'une importante délégation composée de membres du gouvernement et d'hommes d'affaires de Turquie, s'est entretenu avec son homologue congolais Félix Tshisekedi.
Plusieurs accords ont été signés, a dit M. Tshisekedi, portant sur plusieurs domaines de coopération, notamment la sécurité, les infrastructures, la santé, le transport. Il a salué une coopération gagnant-gagnant, ajoutant que dans le domaine sécuritaire, Kinshasa a sollicité le soutien de la Turquie pour lutter contre les milices et groupes terroristes dans l'est du pays, a dit M. Tshisekedi.
Au Soudan, une personne a été tuée dans la répression des manifestations anti-putsch hier, c'est ce qu'ont indiqué des médecins, au moment même où l'émissaire de l'ONU pour les droits humains entame une visite dans le pays englué dans la violence depuis le coup d'État d'octobre. Nathalie Barche.
Alors que des milliers de manifestants défilaient à Khartoum, un homme a reçu une balle dans la poitrine, rapportent des médecins, qui recensent 82 morts depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre. Les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes et fait usage de leurs canons à eau contre les manifestants à Khartoum et dans ses banlieues, alors même que l'expert onusien des droits humains pour le Soudan Le Sénégalais Adama Diang entame sa première visite dans le pays depuis le putsch. Il a rencontré l'émissaire permanent de l'ONU, Volker Perthes, plusieurs dirigeants et des représentants de la société civile pour tenter de faire la lumière sur les violences. Plus d'une centaine de personnes sont en détention et certaines sont entrées en grève de la faim pour dénoncer les mauvais traitements qu'elles disent subir. Des partisans d'Omar el-Béchir, renversés en 2019 sous la pression de la rue, se sont rassemblés dimanche devant le tribunal de Khartoum en soutien à Ibrahim Gandour, ancien ministre des Affaires étrangères. Ce dernier en grève de la faim depuis un mois avec d'autres anciens responsables du régime Béchir s'y trouvait pour une nouvelle audience de son procès pour un coup d'État manqué en juillet 2020.
Des manifestations ont eu lieu hier dans plusieurs villes du Maroc pour protester contre la hausse des prix et commémorer le 11e anniversaire de manifestations réclamant des réformes. Dans la capitale Rabat, des dizaines de manifestants ont dénoncé le coût élevé des produits de base et crié des slogans rappelant le mouvement du 20 février, né des soulèvements du printemps arabe qui ont secoué le Moyen-Orient en 2011. La sécheresse a porté préjudice à l'économie du Maroc et les Marocains ressentent également le poids des prix élevés du carburant.
L'Éthiopie a officiellement lancé la production d'électricité du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu après plus de 10 ans de travaux et de controverses avec l'Égypte et le Soudan. Nathalie Barge à nouveau.
Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a présidé le lancement de la production, a déclaré que c'était la naissance d'une ère nouvelle. Accompagné de plusieurs hauts responsables du pays, il a cliqué sur des interrupteurs pour déclencher la production du barrage. Le porte-parole du Front populaire de libération du Tigré, Gatechou Reda, a accusé M. Abiy de s'attribuer les mérites d'un projet lancé sous un gouvernement alors dirigé par les Tigréens. Aujourd'hui, Abiy Ahmed essaie de tirer profit d'un projet qu'il a autrefois ouvertement dénigré comme un coup de publicité sans importance, a-t-il tweeté. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a dit regretter que l'Éthiopie persiste dans ses violations de la déclaration de principe de 2015, prévoyant la recherche d'une solution négociée entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Saisi l'été dernier, l'ONU avait recommandé aux trois pays de poursuivre leur pourparlers sous l'égide de l'Union africaine. Le Caire et Khartoum, inquiets pour leur approvisionnement en eau, avaient demandé à Addis Abeba de stopper le remplissage du barrage. Une deuxième turbine devrait être mise en marche d'ici quelques mois et l'ensemble du barrage, dont le coût total est estimé à 4,2 milliards de dollars, doit être pleinement opérationnel en 2024.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a accepté le principe de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un sommet comme l'a proposé le président français Emmanuel Macron, à condition que la Russie n'ait pas envahi l'Ukraine d'ici là, a confirmé hier soir la Maison-Blanche. Les États-Unis s'engagent à poursuivre la diplomatie jusqu'au moment où une invasion débutera, a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.
Le président Biden a accepté en principe une rencontre avec le président Poutine si une invasion n'a pas eu lieu, a-t-elle poursuivi. Nous sommes également prêts à infliger des conséquences rapides et sévères si la Russie choisit la guerre à la place, a ajouté Mme Psaki. Et actuellement, la Russie semble poursuivre ses préparatifs pour une attaque à grande échelle de l'Ukraine très bientôt. Des images satellitaires montrent de nouveaux déploiements de troupes russes et de matériel militaire à la frontière ukrainienne, a assuré ce dimanche une entreprise américaine.
Moscou dément tout projet d'attaque, mais demande des garanties sur le fait que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN et que les puissances occidentales retirent leurs forces d'Europe de l'Est, ce que les États-Unis et leurs alliés refusent. Et puis la Russie et l'Ukraine ont continué hier à s'accuser mutuellement d'être responsables des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien.
Les Occidentaux craignent que l'intensification des combats depuis deux jours sur la ligne de front ne serve de prétexte à la Russie qui a massé 150 000 soldats aux frontières ukrainiennes pour envahir son voisin pro-occidental.
La reine Elisabeth II, 95 ans, a été testée positive au Covid-19, mais ne présente que des symptômes légers comparables à ceux d'un rhume, a annoncé hier le palais de Buckingham. La monarque, qui vient de passer le cap des 70 ans de règne, avait rencontré le 8 février son fils, le prince Charles, deux jours avant que celui-ci ne soit testé positif. Selon les médias britanniques, la reine, qui fêtera ses 96 ans le 21 avril, est triplement vaccinée.
Et puis au Canada, la police a quasiment repris hier le contrôle du centre d'Ottawa, paralysé durant 24 jours par des camionneurs s'opposant à la politique sanitaire du gouvernement.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une et on jouait ce week-end la deuxième journée de la phase de poule des Coupes d'Afrique de clubs.
Oui, et en Coupe de la Confédération, toutes les rencontres ont eu lieu hier dans le groupe A. Pyramide a décroché sa deuxième victoire en deux matchs contre les Zambiens de Zanaco 2-0. Les Égyptiens sont en tête avec 6 points, 3 de plus que les Libyens d'Ali Tripoli qui ont battu les Tunisiens du club sorti spatien 2-1. Et puis, dans la poule B, ça ne va pas mieux pour Orlando Pirates battu par Al-Ittihad 3-2. Les Sud-Africains partagent désormais la tête du groupe avec les Libyens et les Algériens de la JS Aoura, vainqueur 2-0 de Royal Leopard d'Eswatini.
La suite des résultats dans les autres groupes.
Et les Congolais du TP Mazembe n'ont pas pu enchaîner dans la poule C. Ils ont été battus 2-0 en Égypte par Al Masry. Les deux équipes partagent la première place avec 3 points. Le second match du groupe se joue mercredi au Congo-Brazzaville entre l'AS Otoho Doho et les Camerounais du Coton Sport de Garoua. Dans la poule D, la SEC d'Abidjan se relance. Les Ivoiriens vainqueurs 3-1 des Marocains de la Renaissance Berkane sont désormais deuxièmes à 1 point des Tanzaniens de Sima, contraints au nul 1-1 au Niger par l'US Gendarmerie Nationale.
Un peu plus tôt avaient lieu les matchs de la Ligue des Champions.
Tout à fait. Et dans le groupe A, pour son entrée, les Égyptiens d'Al-Ali tenant du titre ont été accrochés 0-0 au Soudan par Al-Hilal. Même score entre l'autre club soudanais El Merriek et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, toujours leader au classement avec 4 points. Par contre, c'est le Raja de Casablanca qui domine le groupe B avec 6 points. Deuxième victoire, cette fois en Algérie 1-0 devant l'entente de Sétif. Malgré cette performance, le club marocain s'est séparé de son entraîneur Mac Wilmot. Le Belge, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, arrivé au club mi-novembre, perd sa défaite lors de la Super Coupe d'Afrique face à Al-Ahly. Et ça se complique aussi pour les Guinéens de Oroya qui ont essuyé leur second revers 1-0 en Afrique du Sud face à Mazoulou.
Dans la poussée, les deux clubs tunisiens ont ramené le nul de leur déplacement.
Oui, l'Espérance de Tunis 1-1 en Algérie face au CR Belouizdad. Les Sang et Or sont premiers avec 4 points. Score identique au Botswana entre l'Étoile du Sahel et le Djouanek Galassi. Et puis, les Angolais du Petro Atlético de Luanda, après avoir battu 2-1 le Wydad de Casablanca, Blanca prennent le contrôle du groupe D avec 4 points. Un groupe dans lequel n'avance pas le Zamalek du Caire qui a enregistré un second nul et cette fois 0-0 sur le terrain de Sagrada Esperanza.
Le foot, c'est aussi le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine.
Effectivement Idrissa, plus qu'un match et on connaîtra les qualifiés pour la phase finale qui aura lieu au Maroc. Les matchs retour de ce dernier tour qui démarre ce lundi. Et pas trop d'inquiétude pour le Burundi qui avait étrié Djibouti 6-1 à l'aller. Demain mardi, pareil pour le Burkina Faso, déjà vainqueur 6-0 en Guinée-Bissau. Par contre, tout reste à jouer entre la Namibie et la Zambie qui se sont neutralisés 0-0 mercredi dernier. Ça reste aussi ouvert à Bamako où les Maliens n'ont qu'un but à remonter face aux Sénégalaises. Et puis, du basketball pour finir, la NBA et avec vous Idrissa, le résultat des All-Star Games qui ont eu lieu cette nuit.
Eh bien, Steph Curry des Golden State Warriors a marqué, tenez-vous bien, 50 points pour donner la victoire à l'équipe LeBron face à l'équipe Durant, 163-160.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulière. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Réaction croisée en Guinée suite au lancement des opérations de récupération des domaines de l'État engagées par la junte au pouvoir. Plusieurs personnes, dont des leaders politiques, sont concernées par cette mesure. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La mesure divise les Guinéens et pour Kabiné Fofana, politologue, cela s'explique.
Mais une action visant, par exemple, des acteurs politiques ou plutôt des personnes qui ont aussi une stature politique peut être interprétée comme ça. Je pense que ceci est tout à fait normal du fait du statut de figure politique de ce dernier. Aujourd'hui, une démarche qui ne semble pas tout à fait du goût d'une certaine opinion. On comprend bien que les gens pensent qu'il y a derrière ces actions-là des visées politiques.
Le FNDC, plateforme anti-troisième mandat sous Alpha Condé, déclare que le CNRD a tendance à se substituer à la justice, une justice inhumaine, dont une partie dénonce une procédure de nature à restreindre les droits fondamentaux. Maître Djibril Kouyaté, bâtonnier.
Le barreau de Guinée rappelle que la suspension de l'émission des titres fonciers et des baux à construction et amphithéotiques est une atteinte aux droits des particuliers. Il en est de même de la toute première décision du ministre de l'Urbanisme de l'Habitat interdisant toute cession ou vente d'immeubles ou de terrains avant leur immatriculation à la conservation foncière.
L'opération de récupération des domaines de l'État est à sa deuxième phase. Elle concerne plus de 80 personnes et institutions, dont les anciens premiers ministres Sidi Touré et Sylvie Alaïne Diallo. Les deux personnalités politiques ont annoncé à la presse avoir acquis les domaines privés de l'État en toute légalité. Sylvie Alaïne Diallo.
Ce terrain est le bâtiment de deux chambres, un salon qui l'abrite, que le président Conté appelait ton hangar. Voilà la lettre que formant au ministre de l'Urbanisme m'a envoyée pour me dire de verser le montant de 406 millions à l'ordre du patrimoine bâti public.
En réponse à la sortie des deux leaders politiques, les porte-paroles du gouvernement et de la présidence sont passés à la télévision nationale pour expliquer le bien fondé de l'opération. Colonel Amara Camara, porte-parole de la junte au pouvoir en Guinée.
Il n'est pas quand même caché que ces personnes qui ont occupé des grands postes de responsabilité. Et c'est au nom de ces responsabilités que les domaines qu'ils occupent aujourd'hui, ils les occupent dans l'occupation, de récupération du domaine de l'État que nous sommes en train de faire. Il est important que ça soit retenu pour chacun, que ça ait un caractère général. C'est impersonnel, également apolitique.
Selon le porte-parole du gouvernement, l'opération de récupération des domaines de l'État a pour objectif de savoir dans quelles conditions les biens sont partis du patrimoine. Zakaria Kama pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Au Gabon, l'auto-emploi a un nouveau visage. Des jeunes désœuvrés se sont offerts une activité engendrant des revenus. Au centre-ville de Libreville, la capitale, ils assurent la régulation et le gardiennage de véhicules d'usagers. Il s'agit d'enfants qui ont eu un passé difficile dans la rue, mais qui aujourd'hui sont en pleine reconversion. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Ismaël Obiangze.
J'ai beaucoup dormi dans la rue. Je suis venu dans la rue, j'avais pratiquement 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai fait la prison.
Éric Indoum, serval de son petit nom, se relève d'un passé peu glorieux qui l'obligeait à voler pour subvenir à ses besoins. Mais depuis près de 10 ans, il est à la tête d'une organisation informelle de régulateurs de véhicules sur les grandes artères de Libreville.
Avec mes potes, c'est quoi? On a instauré un système du genre, hein? Chacun son tour de parquer le véhicule. Et maintenant, S'il y a un espace, celui-là qui veut, n'est-ce pas, merder, on le parle une, deux fois. Avant de t'appeler à la police, on te bastonne d'abord avec les mains. Ah, c'est la rue, c'est la street.
Dans la rue, ces enfants sont en effet tout expérimentés. Bataille rangée et vol à l'arraché avant cette reconversion inespérée. Roy Maganga, devenu gardien de parking, invite d'autres jeunes à travailler.
Ils doivent travailler, ça ne sert à rien de braquer. Parce que imaginons que tu braques ta mère. On dit on braque ta mère, t'aimes que tu es braqueur, tu vas faire comment?
Les difficultés traversées ont servi de leçon à tout un chacun. Lilian Essono veut ouvrir une nouvelle page de sa vie.
On a des enfants aujourd'hui, on a des charges. Donc du coup, on est obligé d'être là. Ces gens de bonne foi qui nous payent ici. Ce n'est pas tous qui sont censés garer ici qui nous payent. Il y a d'autres qui disent qu'ils payent des taxes. On n'oblige à personne de nous payer.
Pas loin de là, Jean de Dieu Anguillet vient d'empocher 500 francs CFA après avoir aidé un automobiliste à se garer en face du commissariat central de Libreville.
Par jour, tu peux rentrer, tu rentres avec 2000. Comme par jour, tu peux rentrer avec 15 000. Une personne de bonne foi peut te remettre 5 000 comme un coca.
L'offre de service de ces jeunes débrouillards séduit et rassure les usagers du secteur administratif de la capitale.
À force de garer à certains endroits, on connaît les jeunes qui sont réguliers à cet endroit-là. Et puis, on s'entend très bien, donc c'est plutôt rassurant.
Ils viennent un peu comme un appui au travail qui avait déjà été, ou du moins qui est en train d'être mené par les forces de police nationales. Mais je crois que, avec ce qu'ils font aujourd'hui, il y a une fluidité au niveau de la circulation. Et les véhicules sont bien gardés, on retrouve les objets. Il y en a qui retrouvent leur téléphone portable à l'intérieur de leur véhicule, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
La délinquance urbaine n'a certes pas cessé à Libreville, mais la surveillance quasi permanente des véhicules par ces jeunes permet de limiter les braquages et les vols à l'arraché sur les artères de la capitale gabonaise. Libreville, Ismaël Oguenzi pour VO Afrique.
C'est parti pour la deuxième saison de la Basketball Africa League, l'événement basketball de l'année. La Voix de l'Amérique, en partenariat avec la balle, vous fait découvrir l'événement phare du basket africain. 12 clubs en compétition pour succéder aux Zamalek, vainqueurs de la première édition. 38 matchs à disputer dans 3 pays, le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda. Retrouvez les matchs en direct, les avant et après matchs, ainsi que des résumés quotidiens sur les ondes de la VOA et sur nos stations partenaires. La Basketball Africa League sur la voie de l'Amérique, que le meilleur gagne.
À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'inhumation des défunts issus de familles pauvres est devenue un casse-tête selon notre correspondant sur place. La capitale du Nord Kivu n'a plus de cimetière public et des particuliers investissant dans la création de cimetières privés font payer cher les tombes, nous dit Zanem Neti Zaidi.
De nombreuses familles à Goma ont des difficultés à enterrer leurs proches. Les cimetières publics sont rares ou ne sont plus opérationnels. Récemment, Jean-Claude Kalemekwa, un habitant, a perdu son frère et garde un très mauvais souvenir de son enterrement.
Dernièrement, quand on a enterré un frère, on a dû payer 900 $ américains pour que ce frère-là, ce défunt, paix à son âme, puisse bien reposer en paix. C'est devenu un peu compliqué. On va se retrouver face à certaines personnes qui vont abandonner leurs cadavres dans des morgues de la ville de Goma, parce qu'ils n'ont pas de moyens.
Pour les militants des droits de l'homme, c'est une double douleur. Déjà perdre quelqu'un de proche est très dur, mais devoir payer très cher pour l'enterrer est inqualifiable. Jacques Sinzaera est un activiste du mouvement citoyen Amka Congo.
Nous nous inquiétons de voir que les familles des minis n'ont pas droit à l'inhumation et que perdre une personne à Goma, c'est dépenser au-delà même de sa fortune.
Les deux cimetières publics de la ville ont déjà été fermés par les autorités urbaines, qui a favorisé les propriétaires des cimetières privés qui ont maintenant le monopole des services funéraires. Ils gonflent parfois les coûts de l'inhumation. Ces gérants des cimetières privés expliquent le coût élevé de leurs services par la qualité qu'ils offrent à leurs clients, contrairement aux cimetières publics.
Ça nous fait comprendre que dans une grande ville comme Goma, on ne devrait pas avoir un seul cimetière où on peut enterrer aujourd'hui. Et quelques temps après, on vient d'enterrer. Ce qui nous a motivés à créer ce nouveau cimetière moderne, c'est pour répondre aux besoins funèbres de la population de Goma et ses environs pour une inhumation digne de nos êtres chers qui nous ont précédés.
Les autorités provinciales ont annoncé l'ouverture prochaine des deux nouveaux cimetières publics afin de permettre à chaque famille, selon ses moyens, d'enterrer dignement ses proches. Bienvenue Koulimouchi est un agent du service de l'urbanisme de la province du Nord Kivu.
Cette question n'est pas restée hors du regard des autorités au niveau provincial. Voilà pourquoi d'ici quelques semaines, de nouveaux cimetières publics seront inaugurés dans les territoires de Nyiragongo. Parce que, comme vous le savez, la ville de Goma en a aucun espace qui peut actuellement contenir un cimetière. Donc les habitants de Goma et ses environs auront des cimetières publics à leur disposition très prochainement.
Certaines familles qui ne trouvent pas le moyen d'enterrer leurs proches préfèrent les enterrer dans le village à des dizaines de kilomètres de la ville de Goma. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Afrique du Sud, plusieurs centaines de personnes ont marché ce week-end à Johannesburg à l'appel de l'opération Doudoula. Selon ses organisateurs, le mouvement veut chasser les immigrants illégaux et donner aux Sud-Africains la priorité à l'emploi. Le risque est grand de le voir dégénérer en des actes de violence xénophobes. Notre correspondante Patricia Huron.
Opération Doudoula, poussée dehors, c'est le nom d'un mouvement xénophobe qui émerge en Afrique du Sud depuis le début de cette année. Parti de Soweto, il se répand dans Johannesburg. Ce week-end, environ 500 personnes ont défilé dans les rues de Hillbrow, un quartier proche du centre-ville où vivent de nombreux immigrés africains. Comme beaucoup ici, Tabang, fouet à la main, les accuse d'être responsables du chômage qui a explosé avec la pandémie.
Nous sommes ici pour chasser les immigrés du pays, enfin ceux qui sont illégaux. Nous n'avons pas de travail, nos enfants passent leur bac et ne trouvent pas de travail. Le responsable, c'est notre gouvernement qui a laissé ces gens venir dans notre pays.
Plusieurs des organisateurs sont vêtus de treillis militaires. Ils assurent ne pas vouloir créer de violence, mais forcer les autorités à prendre des mesures. Dan Radebe est l'un des leaders du mouvement.
Le but de ceci, c'est d'aider la communauté locale à prendre le contrôle de la ville et de se débarrasser des criminels et de leurs activités illégales. Nous identifions les repères pour le trafic de drogue afin que la police puisse agir.
Mais la volonté d'intimidation est incontestable. Les manifestants s'arrêtent devant un supermarché protégé par une rangée de policiers. Ils veulent que les propriétaires s'engagent à se débarrasser de leurs employés étrangers et accusent ceux-ci d'utiliser de faux papiers. Alors que la marche progresse sur les trottoirs, des habitants approuvent, d'autres sont perplexes.
Qu'ils demandent si
ils vont trouver pour la satisfaction qu'on a donnée.
Cela va c'est mauvais pour le pays. Nous sommes tous noirs, tous africains. Je ne vois pas le problème.
L'Afrique du Sud est régulièrement secouée par des violences xénophobes, parfois meurtrières. Sur fond de crise économique et de frustration, une étincelle peut déclencher une escalade. À Johannesburg, Patricia Huron pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sibudia et Abdourahman Dia. À la mise en onde, Lionel Galima et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.